Débat Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 17h à Abidjan, en Côte d'Ivoire, 19h à Bujumbura. Bonsoir, bienvenue. On commence par le Mali. Le groupe djihadiste Ansardine a revendiqué ce mardi les attaques du week-end dernier contre deux localités du pays proches de la Mauritanie et de la Côte d'Ivoire et menacé de lancer des attaques dans ces deux pays. Nous revendiquons l'attaque de Nara et celle de Fakola, terre d'islam, pour punir les ennemis de l'islam, a déclaré par téléphone le prédicateur radical malien Ismaël Khalil, membre d'Ansardine, promettant que le groupe allait multiplier les attaques en Côte d'Ivoire, au Mali et en Mauritanie, des pays qui travaillent avec les ennemis de l'islam, rapporte l'AFP. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante, la CEI, a proposé au gouvernement la prorogation du délai de révision de la liste électorale. L'opération de révision du fichier électoral débutée le 1er juin devait prendre fin ce mardi 30 juin. Mais pour les nouveaux majeurs, moins de 500 000 personnes ont été enrôlées finalement sur les 3 millions de potentiels nouveaux électeurs attendus. Pour en savoir davantage sur cette désaffection, écoutons Dr Kwambe Christophe, analyste politique et membre de la société civile ivoirienne.
Il y a une fracture suite à la crise post-électorale. Et cette fracture qui a mis deux camps en face n'a pas, à la date d'aujourd'hui, pu être fermée. Constatez vous-même que le président de la CDVR, aujourd'hui candidat, joue contre les citoyens ivoiriens qu'il était censé interroger pour arriver à la réconciliation. Donc, le petit peuple s'y perd entre l'ancien président de la CDVR qui attaque le pouvoir en place qui attaque les partis d'opposition, les partis d'opposition qui sont divisés. Donc, dans une atmosphère comme ça, le citoyen lambda ne se retrouve plus. Et aujourd'hui, tous ceux que nous avons rencontrés disent que nous allons nous enrôler, que nous ne nous enrôlons pas. Ils ont commencé à élever le ton. Tous ceux qui sont leaders, qui sont présidents d'associations, qui sont coordonnateurs, qui sont directeurs exécutifs d'ONG et d'organisations de la société civile, doivent au même s'auto-saisir parce qu'ils ont une légitimité sociale qu'ils doivent employer dès maintenant à écrire à la CEI, taper à la porte de la CEI pour dire « Nous sommes citoyens, pour nous, nous n'allons pas jouer aux pompiers cette année. Donc, donnez-nous la possibilité, donnez-nous les moyens, donnez-nous l'accréditation pour que nous fassions un minimum de 2 ou 3 jours de sensibilisation. » Mais la plus grande partie de cette sensibilisation et de cette information doit venir de l'exécutif. L'État de Côte d'Ivoire, à travers les différents ministères, doit appuyer la CEI pour que, de l'autre côté aussi, la sensibilisation institutionnelle se fasse.
Dr Christophe Kwame, analyste politique et membre de la société civile ivoirienne, joint à Abidjan. La compilation des résultats se poursuivait ce mardi au Burundi, sans grand suspense, au lendemain des résultats d'élections législatives et communales qui, selon l'AFP, devraient consacrer la victoire du parti du président Pierre Nkurunziza et de ses alliés. L'opposition et la société civile qui avaient appelé au boycott ont fustigé une parodie d'élections. De son côté, la communauté internationale a quasi unanimement dénoncé la tenue de ces scrutins par les autorités burundaises, sourdes aux appels à les reporter. Jacques Aristide.
Les candidats élus ne seront pas nos députés. Ils ne nous représenteront ni au conseil communal ni au Parlement. Ils tenteront de représenter leur maître Nkurunziza, mais le pays nous appartient, nous ne l'accepterons pas. Écrit sur Facebook un des dirigeants de la contestation pacifique Nini Nahazwe. L'Union européenne, principal partenaire du Burundi, a qualifié la tenue de ces élections de fait grave, susceptible d'exacerber la crise et menacé de mettre en branle les mécanismes menant à la suspension de sa coopération avec le pays, très largement dépendant de l'aide extérieure. Les États-Unis se sont dit profondément déçus car ces législatives ont été organisées dans des conditions terriblement inadéquates. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, se dit pour sa part préoccupée par la grave situation politique et sécuritaire au Burundi.
Le retour d'Ebola au Libéria, un jeune homme de 17 ans est décédé de la fièvre hémorragique seulement 7 semaines après que l'Organisation mondiale de la santé eut déclaré l'éradication de la maladie. Les autorités sanitaires tentent de déterminer comment le malade a contracté le virus mortel. Félix Yepassi Zembrou.
Le jeune homme est décédé le 24 juin dans le comté de Marguibi, loin des frontières de la Guinée et de la Sierra Leone, les deux autres foyers de l'Ebola. Le ministre adjoint de la Santé, Tolbert Nyenswa, en charge de la lutte contre Ebola du Libéria, a fait savoir que ses services ignorent comment l'adolescent a contracté la maladie, mais une enquête a été ouverte et il a exhorté les populations à ne pas céder à la panique. Un message qui semble être tombé dans des oreilles de sourds, étant donné le traumatisme dans lequel baignent les populations. Confort Freeman, mère de 4 enfants, ne peut s'empêcher d'être inquiète.
Nous, les grandes personnes, nous pouvons prendre des précautions, mais les enfants ne peuvent pas en faire autant. Donc je me sens si diminuée ce matin. Nous mettons notre foi en Dieu. Avec lui, tout est possible.
Le virus Ebola a tué plus de 11 100 personnes depuis le début de l'épidémie à la fin de décembre 2013 au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a promis ce mardi une législation plus dure pour lutter contre le terrorisme au lendemain de la mort du procureur général Hicham Barakat dans un attentat spectaculaire dans la capitale. Barakat, âgé de 64 ans, est le plus haut représentant de l'État tué depuis le début de la vague d'attentats djihadistes depuis 2013. Ces attaques se sont multipliées depuis que M. Sissi, alors chef de l'armée, a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013 et orchestré une sanglante répression contre ses partisans.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Les ministres des Finances de la zone euro discutaient ce soir par téléconférence de la dernière proposition grecque, mais la Grèce était sur le point de se retrouver en défaut de paiement. Athènes devait rembourser 1,6 milliard d'euros au Fonds monétaire international d'ici minuit, heure de Washington. Mais le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, a prévenu aujourd'hui que cette somme ne serait pas remboursée à la date prévue. La Grèce a annoncé cet après-midi avoir soumis à ses créanciers un nouveau projet d'accord sur 2 ans avec le mécanisme européen de stabilité. Il permettrait de couvrir ses besoins financiers et s'accompagnerait d'une restructuration de la dette. L'objectif serait de faire en sorte que la Grèce demeure in extremis dans la zone euro. Les pourparlers sur le nucléaire iranien vont se poursuivre jusqu'au 7G. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui des officiels américains. Les négociateurs s'étaient donnés jusqu'à ce mardi 30 juin pour arriver à un accord définitif. Idrissa Seydoudia.
Selon la porte-parole américaine Mary Half, les participants ont décidé d'aller au-delà de cette date butoir pour donner plus de temps aux négociations afin d'arriver à une solution à long terme. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, qui est revenu à Vienne après des consultations à Téhéran, a rencontré le secrétaire d'État américain John Kerry, qui a dit avoir eu une bonne conversation avec son homologue iranien. Les négociateurs ne révèlent rien sur les détails de ces négociations entre les États-Unis, leur partenaire du P5+1 et l'Iran. Mais selon certains observateurs, les pourparlers buteraient, entre autres, sur l'accès des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique au site iranien, ainsi que le calendrier de la levée des sanctions contre Téhéran. L'accord final auquel les négociateurs espèrent aboutir dans les prochains jours doit garantir le caractère pacifique du programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions internationales qui affectent l'économie de ce pays.
Et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de nouveau mis en garde aujourd'hui contre un accord entre l'Iran et les grandes puissances permettant, selon lui, à Téhéran de développer des armes nucléaires. Monsieur Netanyahou n'a eu de cesse depuis des mois de dénoncer tout accord avec l'Iran et laisse peser la menace d'un possible recours à la force pour empêcher la République islamique de se doter d'un programme nucléaire militaire. Au Yémen, les rebelles chiites houthis ont affirmé avoir tiré tôt ce mardi un missile Scud sur la base militaire saoudienne d'Al-Salil dans la région de Riyad, mais l'Arabie a contesté cette information. L'Arabie saoudite est à la tête depuis le 26 mars d'une coalition menant une campagne de raids aériens contre les rebelles houthis au Yémen. Les rebelles qui ont pris le contrôle de la capitale yéménite Sanaa en septembre avant d'étendre leur présence à d'autres régions du Yémen sont alliés à une partie de l'armée restée fidèle à l'ancien président Ali Abdallah Saleh. Leur arrivée à Aden dans le sud a poussé le président Abd Rabo Mansour Hadi, reconnu par la communauté internationale, à s'exiler en Arabie saoudite. Et puis ici aux États-Unis, la Cour suprême américaine a jugé lundi conforme à la Constitution une méthode controversée d'exécution par injection létale. Il s'agit du recours à la drogue midazolam utilisée comme un anesthésique pour rendre le condamné inconscient avant sa mise à mort. Jean-Roger Bion à ce microphone. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est seulement dans 20 minutes. Ce sera dans Le Monde aujourd'hui. Camille Gros-Didier, Morgane Guiriec seront présents pour vous servir. Merci.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.